La grande matinale Le Mag, je vous emmène jusqu'à 10h. On va prendre le temps d'une visite en Inde avec Emmanuel Macron et Charline Van Honecker, le temps d'une rencontre décoiffante avec un jeune acteur, il s'appelle Mamadou Sidibé et il sera au micro de Daphné Burki. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour, militant d'ultra-droite, militant d'ultra-gauche, groupe d'autodéfense, débat parlementaire et réseaux sociaux chauffés à blanc. En 2026, la vie politique est-elle plus violente qu'auparavant? On en discute tout à l'heure. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
En Ukraine, la guerre a déjà fait 600 000 victimes, dont 100 000 morts. Et les 500 000 autres, alors? Au mieux, blessés, au pire, déchiquetés, mutilés, éborgnés. Un siècle après la Première Guerre mondiale, les gueules cassées sont de retour en Europe. L'Ukraine manque de chirurgiens pour les reconstruire. Alors l'une de nos pontes se rend là-bas avec son équipe. Elle opère, elle repart, elle répare. Et ensuite, elle repart. Vous la connaissez après la tuerie de Charlie Hebdo, Philippe Lançon avait fait d'elle l'héroïne d'un roman, Le Lambeau. Aller chercher un morceau de chair vive dans un ventre, dans un dos, dans une jambe, pour refaire une bouche, un nez, un front, un visage. Chloé Berthelus est chef du service de chirurgie maxillofaciale à la Pitié-Salpêtrière. Avait-elle songé qu'un jour, elle ferait de la médecine de guerre? Portrait numéro 92. Professeur Berthelus, bonjour.
Bonjour.
Les visages de la guerre, c'est ce film réalisé par Didier Cros qui est déjà disponible sur France Télé et qu'on pourra voir ce soir à 22h35 sur France 2. Pourquoi aller là-bas? Pourquoi vous et des médecins français allez en Ukraine? Parce que vous vous déplacez à plusieurs chirurgiens, vous videz des services entiers des hôpitaux français de leurs chirurgiens actifs. Pourquoi ne pas faire venir les patients?
Alors c'est une question qu'on s'est effectivement posée au début de ce projet, lorsque nous avons été sollicités via le ministère de la Santé français par le ministère de la Santé ukrainien, et il est très très vite apparu qu'au traumatisme de la blessure, au traumatisme des chirurgies itératives nécessaires pour reconstruire ces patients, on n'allait pas rajouter le déracinement. Ouais. On allait aller soigner les gens près de chez eux, le plus près possible de chez eux, avec autour d'eux un environnement qui parle leur langue, avec une culture qui est la leur, avec des choses aussi bêtes qu'une alimentation qui est la leur. Bref, les laisser dans leur environnement. La première chose, c'était les laisser près de chez eux. La deuxième chose, ce sont des gens qui sont opérés sur de très très longues durées. Oui. C'est pas du tout des interventions ponctuelles. Et donc, il paraissait fou de leur demander de venir vivre en France pendant
des
5 ans.
Des mois et des mois, ouais, des mois et des mois. C'est la première fois, vous, que vous opérez dans un pays en guerre?
Alors, dans un pays en guerre, oui, absolument.
Je dis ça parce que, évidemment, tout au long du film, il y a les alertes à la bombe, oui. Il y a les départs aux abris qui interrompent le travail.
Oui, effectivement, ça ne m'était jamais arrivé jusque-là, mais il faut bien remarquer que cette mission se déroule à Lviv, qui est une ville extrêmement proche de la frontière polonaise, et donc très éloignée du front actif, qui est beaucoup plus à l'est, et dans laquelle on peut... On a l'impression, en tout cas, dans les séjours qu'on y a tous fait, de vivre une vie quasi normale. Ouais. On n'a jamais entendu un bombardement, nous, ouais. Dans Lviv.
Sauf quand on entre dans cet hôpital, et que dans ce centre hospitalier, et qu'on voit ces gueules. Après les attentats, et je pense au Bataclan notamment, on a beaucoup entendu cette expression « scène de guerre en plein Paris ». D'ailleurs, de très nombreux blessés avaient été à ce moment-là orientés vers des hôpitaux militaires. Alors, outre la barbarie, le nombre impressionnant de victimes, qu'est-ce que ça signifie, la guerre, pour un médecin? Est-ce que ça signifie quelque chose ou rien? Une gueule abîmée, c'est une gueule abîmée, qu'elle ait été abîmée par la guerre, par un éclat d'obus, par un feu de mitraille, ou par autre chose, ça ne change rien?
Alors, je ne généraliserai pas à tous les médecins, oui. Je ne m'y autoriserai pas, mais pour ce qui me concerne, un patient qui rentre avec un problème de défiguration, quelle qu'en soit la cause, c'est en fait un problème à résoudre. Et pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus tournée vers l'avenir, vers la question « mais que va-t-on pouvoir faire pour cette personne ?» plutôt que vers le passé vers voilà ce qui lui est arrivé, etc. Bien sûr qu'on connaît son histoire, on sait le mode de la blessure, quand ça s'est passé, etc. Bien sûr que c'est intéressant, mais ça ne...
Les bombardements, les tranchées, les immeubles qui se sont écroulés, voilà. Tous ces patients, hein, Petro, Andri, Ludmila, Valentina, qu'on découvre dans le film.
Absolument, mais... En fait, pour chacun d'entre eux, et parce que les problèmes à résoudre sont multiples et pas si simples que ça, eh bien, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté avec les différents collègues avec lesquels je suis partie là-bas, pour nous tous, la problématique était plutôt, que va-t-on faire ? Que va-t-on réussir à faire ?
Si on fait un chinois, il va être un peu gras, son chinois.
C'est ça, on peut le prendre gras et on peut le mettre ici.
On va passer le pédicule là-dessous. Avec... Donc, on met le chinois comme ça.
Le chinois comme ça qui fait palette, avec le gras qui remonte, et on se branche ici.
Attendez, on va poser quand même les bonnes questions. Hein. Monsieur Sneguriev, vous voulez être opéré ou pas ?
Vous voulez être opéré ou pas ? Хочете операцію?
Я можу 200.
Oui. Bah, bien sûr.
Ну, якщо приїхав сюди.
1000 кілометрів.
Я вже сьогодні хотів.
Oui. Сказала вакансія.
Так, сказала вакансії зараз немає.
Il voulait être opéré aujourd'hui, mais il n'y a pas de place. Donc, pour demain, ça va.
Okay.
1000 km pour voir les docteurs français. Qu'est-ce que c'est qu'un chinois, docteur ?
Pardon, oui, effectivement, il y a forcément des ellipses dans ce film parce qu'on a été beaucoup suivis par les caméras pendant très longtemps. Donc, chaque conversation n'est pas un cours, oui. Évidemment. Ce qu'on appelle familièrement un chinois, c'est un lambeau chinois. En fait, ça s'appelle un lambeau libre antibrachial. Ça consiste à prendre la peau de l'avant-bras avec l'artère radiale qui passe en dessous. L'artère sur laquelle on prend le pouls au poignet et les veines de cet avant-bras pour venir reconstruire une surface ou parfois un volume au visage en branchant cette artère et cette veine sur des vaisseaux du cou, donc une branche de la carotide et une branche de la veine jugulaire. Voilà ce qu'on appelle familièrement dans notre discipline un chinois.
Pourquoi c'est si long de reconstruire un visage ? Pourquoi autant d'opérations ? L'un des patients du centre dit « J'ai battu tous les records, j'en suis à 17 ». Et quand on avait lu le lambeau de Philippe Lançon, c'est rien 17 ? Pourquoi c'est rien ? Pourquoi ça se refait pas en une seule fois ?
La seule façon de refaire un visage en une seule fois, c'est la transplantation faciale. Et ça, évidemment, ça n'est pas à disposition. On ne peut pas transplanter tous les gens qui sont blessés.
Donc prendre un visage complet
et le remettre.
Voilà.
Enfin, en tout cas, prendre toute la partie détruite et la remettre en place. Pourquoi on ne peut pas faire d'un seul coup ? Alors, les pionniers de cette chirurgie, donc c'est la guerre de 14, faisaient en peut-être 15 fois ce qu'aujourd'hui on fait en une fois. Mais malgré tout, ce qu'on fait aujourd'hui en une fois ne suffit pas à refaire complètement le visage. S'il vous manque par exemple le nez, la joue et une partie de la mâchoire, on va lors d'une intervention reconstruire la mâchoire avec le péroné, ce fameux lambeau décrit par Philippe Lançon, oui. Pour ne citer que lui.
Le péroné, c'est dans la jambe. Hein,
c'est le deuxième, c'est le deuxième os de la jambe, celui qui n'a pas beaucoup d'utilité mécanique. On prend ce péroné, on va faire la mandibule. Cette intervention-là, elle va prendre 8 heures. On ne va pas dans le même temps, alors que en mettant en place ce lambeau-là, on va déstabiliser l'ensemble de la région. Il est difficile de dire, dans le même temps, on refait le nez avec un autre lambeau, etc., etc. On n'a plus les repères anatomiques, on ne sait plus à quoi ça doit ressembler. Donc on est obligé de faire étape par étape.
Et ce que vous dites dans le film, c'est que quand la guerre va s'arrêter, puisque vous le dites, docteur, vous regardez vers l'avenir, il restera ça.
Oui.
Il restera ces opérations à faire, à refaire, à poursuivre. Et quand je dis à refaire, c'est que vous avez des patients qui ont déjà été opérés, et puis ça a lâché, et puis ça a raté.
Donc bien sûr.
Ça sera ça les cicatrices de la guerre.
Ben, j'imagine l'Ukraine à la fin de cette guerre, parce qu'elle finira bien par se terminer, comme toutes les guerres. Je l'imagine à peu près comme ce qu'on décrit de la France en 1919, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, ce sont quand même beaucoup d'hommes, hein, puisque ce sont des soldats que nous avons soignés dans ce centre principalement, défigurés, amputés. C'est un centre dans lequel, on le voit beaucoup dans le film, hein, on pose des prothèses aussi de membres, hein, énormément. Ouais. C'était la mission initiale de ce centre. Ils seront dans les rues, ils seront au travail, hein, ils auront des emplois qui seront adaptés à leurs conditions physiques, etc. Donc ce seront des cicatrices pour deux ou trois générations. C'est-à-dire que ce sont des hommes jeunes qui auront des enfants qui les verront comme ça, et des petits-enfants qui les verront comme ça.
Ouais.
Et donc les cicatrices d'une guerre, guerre. Et d'ailleurs, on peut être un petit peu cynique, mais finalement, les gens qui déclenchent des guerres le savent très bien. On sait très bien qu'on ruine un pays moralement et psychiquement pour très longtemps.
Et vous, Chloé Berthelus, vous faites de la recherche, vous enseignez, vous diagnostiquez, vous évaluez, opéra, pas opéra, bénéfice, risque, vous dirigez un très gros service hospitalier. Donc votre métier ne se résume pas à opérer. Mais est-ce que vous aimez ça, opérer, encore aujourd'hui ?
Ah oui, alors ça, c'est de toute façon, je crois qu'on ne peut pas être chirurgien si on n'aime pas opérer. C'est-à-dire la sensation physique, le sens, et même, on peut presque dire, le sensuel des organes sous les doigts. Je veux dire que si on n'aime pas ça, c'est, à mon sens, impossible.
Et donc vous aimez les gestes ?
Mais bien sûr, j'avais un chef de clinique qui était un type formidable, j'étais interne, et un jour il m'avait dit « Ouais, il y a plein de gens qui racontent qu'ils font de la chirurgie parce qu'ils veulent sauver le monde, moi je sais que c'est parce que j'aime opérer.
Ouais. »
Voilà.
D'ailleurs, à un moment, on vous voit au bloc, vous avez la main entière fourrée dans la bouche d'un patient.
Ah bon ?
Oui, ou les doigts, et vous dites « Je me prends pour le Bernin ». En train de sculpter du marbre.
Oui, c'était un peu... C'est-à-dire que ce que je voulais dire par là, c'est que la fibrose dans la joue de ce patient était telle, il y avait une telle fibrose cicatricielle, une cicatrice, que j'avais en fait au bout de mes doigts des ciseaux et j'étais en train de couper cette fibrose et j'avais l'impression d'être en train d'attaquer un bloc de marbre. C'était pas du tout... J'avais pas la prétention de faire des choses aussi belles, évidemment, que le Bernin. C'était pas dans ce sens-là. C'était parce que c'était très très dur.
Oui, mais il y a quand même quelque chose du Bernin qui sculpte un visage, il y a quand même quelque chose de Dieu au septième jour qui sculpte.
Ça serait formidable. Ouais. Je crois qu'on se contente d'essayer de rendre la fonction dans notre métier, c'est-à-dire de redonner une ouverture de bouche à des gens qui ne peuvent plus ouvrir la bouche, de redonner une mâchoire à des gens qui n'en ont plus, de donner un nez qui peut respirer à des gens qui n'en ont plus, et de redonner visage humain pour que les gens passe le plus inaperçu possible.
Alors, le visage humain. Je voudrais qu'on entende Bernard Duvauchel. Bernard Duvauchel... De Vauchel, pardon. Ah oui, c'est vrai, De Vauchel, pardonnez-moi. C'était il y a 20 ans, la première greffe de visage. Il y en a eu encore une récemment. Écoutez sa voix.
C'est une greffe d'organe. L'allotransplantation de tissus composites au niveau du visage, comme on utilise le terme scientifique, eh bien, une greffe au sens noble du terme, c'est une transplantation au sens médical du terme, et c'est pas une face qu'on va transplanter ou greffer, c'est un visage dans ce sens où ça permet à la personne de se reconstituer. Alors on parlera d'identité, on parlera de ce que l'on veut ou d'individuation. Le chirurgien n'est là que comme le petit bricoleur qui permet à cette espèce de miracle de se faire.
Mais comment on fait le pont entre le petit bricoleur et le miracle dont parle Bernard de Vauchel ? Le miracle, c'est-à-dire l'individuation, l'identité ? Le poids est immense quand on répare un visage, Chloé Berthelus.
Alors, Dieu soit loué, on ne se réveille pas tous les matins en disant « j'ai un poids immense sur les épaules ». Parce qu'autrement, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, je ne serais pas capable de faire face à l'étendue de ce fardeau. On se dit le matin, voilà, j'ai un patient... Dans notre pratique quotidienne à Paris, ce ne sont bien sûr pas des blessures de guerre qui font notre quotidien, c'est plutôt de la cancérologie. Des gens à qui on doit enlever le palais, par exemple, parce qu'ils ont un cancer du palais, et donc le problème technique, c'est comment lui refaire un palais. Alors, le palais, vous allez dire, ça n'impacte pas tellement le visage, mais si, hein, parce que quand on n'a plus de palais, l'ensemble, si on laisse un trou comme ça, d'abord les gens ne peuvent plus parler convenablement, ils ne peuvent plus s'alimenter convenablement... Et puis l'ensemble de la joue est aspiré vers l'intérieur.
D'ailleurs, je vous pose juste une question. Oui. Qu'est-ce qui est le plus important dans un visage ? Qu'est-ce qui fait qu'un visage est un visage ? Je vous dis ça parce que Ludmila, vous ne savez pas ?
Parce que Ludmila.
Ludmila, dans le film, elle a le nez complètement enfoncé, séparé en deux morceaux. Ouais. Et je vous avoue, le film est interdit au moins de 10 ans, c'est déconseillé pour les enfants. Ce visage est très très dur à regarder.
C'est vrai.
Oui, il est très dur à regarder. Ouais. Mmh. Donc, on se rend compte qu'un nez, c'est très important.
Oui, parce que c'est au milieu de la figure, comme chacun sait.
Oui.
Je crois que le regard compte infiniment, quand même. dans l'humanité, dans l'interaction humaine. Mais c'est vrai que n'avoir plus de visage, c'est être d'une certaine façon sorti de l'humanité. J'avais entendu il y a des années un témoignage radiophonique enregistré d'un poilu de la guerre de 14 et qui disait quand on rentrait le soir dans la tranchée, quand la progression de la file s'accélérait, on savait qu'on allait passer devant une horreur. Et ce que cet homme appelait une horreur, c'était un type complètement, enfin, qui était mort à son poste et complètement avec le visage arraché.
Ouais.
Alors qu'il passait sa journée à ramper dans la boue avec des cadavres à côté de lui, etc. Mais ça, pour cet homme-là, le visage arraché, c'est la déshumanisation. Et on se doit, je le dis souvent, de faire des gens qui passent le plus inaperçus possible. En fait, il ne s'agit pas de faire
c'est
des
ça,
gens
votre
bons,
chef-d'œuvre. C'est
mais
ça.
Bien sûr, c'est des gens qui, quand ils passent eux-mêmes devant une glace, s'acceptent, se reconnaissent en tant que la personne qu'ils sont devenus.
Et ça, vous êtes là, Chloé Berthelus, quand vos patients se regardent pour la première fois après une opération dans une glace. Vous assistez à ces moments-là ?
Alors, on ne fait pas forcément des choses tous les jours très spectaculaires qui vont entraîner une telle transformation. Parce que ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est enlever quelque chose pour le remplacer instantanément. Donc, il n'y a pas forcément...
Quant aux patients ukrainiens qu'on voit dans le film, vous ne les récupérez pas au moment où ils arrivent du front.
Ah, pas du tout.
Ce sont des séquelles. C'est ça, ce sont des séquelles. Ils ont déjà été opérés.
Oui.
Et parfois mal opérés.
Oh, je dirais pas ça. Je pense on a beaucoup tenté pendant qu'on était en Ukraine d'avoir accès aux chirurgiens du front, c'est-à-dire ceux qui font les premiers gestes, pour que, enfin les premières chirurgies, pour que ces chirurgies évitent de couper les ponts aux potentielles reconstructions ultérieures, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu définitives quand elles sont faites. Donc on a donné beaucoup de cours aux chirurgiens du front, mais encore fallait-il qu'ils arrivent du front. C'est vrai que ça pourrait être un peu plus optimal.
Et alors, quand vous formez, quand vous transmettez ces gestes que vous aimez tant, les gestes du bloc que vous aimez tant, depuis toutes ces années que vous opérez, est-ce que vous les vivez différemment ? Est-ce que vous les pensez, vous les repensez ?
On est obligé de les repenser. Ça, c'est peut-être ce qui nous maintient un peu alerte. À l'hôpital, on a tout le temps des jeunes, puisqu'on passe beaucoup, enfin, au bloc opératoire, on a systématiquement des internes, des externes, des étudiants en médecine. Et quand ils disent « mais pourquoi on fait comme ça ?», il arrive que la réponse ne fuse pas, parce que la première réponse qui vient, c'est « parce qu'on a toujours fait comme ça
».
Et la deuxième, c'est « mais tu as raison, on pourrait peut-être faire différemment ».
Et on se revoit
tout le temps
soi-même, jeune,
en train d'être enseigné par quelqu'un qui dit,
en train de regarder un ponte opéré,
en tout cas avec lequel on a opéré et qui faisait comme ça et qu'on trouvait ça bien. Et puis en fait, on peut peut-être faire autrement parce que d'autres font autrement. Et en fait, ces jeunes nous amènent sans arrêt l'expérience qu'ils ont acquise ailleurs. Qui n'est pas forcément une expérience immense, mais sur des choses très ponctuelles. Et on se rend compte qu'on fait des choses différentes, oui.
Chloé Berthelus, Les visages de la guerre, c'est ce film réalisé par Didier Cros, qui vous a suivi, vous, et une équipe de chirurgiens. Alors, les chirurgiens, ils viennent de partout en France. Hein. Ce n'est pas seulement les chirurgiens de la Salpêtrière.
Hein. Ah oui.
Ils viennent de Caen, ils viennent de Montpellier. Je dis, vous avez vidé les hôpitaux français pour aller reconstruire des gueules cassées en Ukraine. Le film, donc, vous pouvez le voir sur la plateforme de France Télé. Sinon, il est diffusé ce soir à 22h35. Merci d'être venu dans la grande matinale de France Inter.
Merci à vous.
Le son trip-hop de la fin des années 90, c'était Portishead, c'était Glory Box, dans le mag de la grande matinale. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, à 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter, Emmanuel Macron est en Inde et il a annoncé un partenariat sans limite sur la vente d'armes et l'IA. C'est rassurant ou pas?
Oui.
On va voir.
Oui.
Daphné Burki.
Bonjour, à 9h50, je vous présente, c'est pas que c'est une nouvelle tête, c'est que c'est une nouvelle tête, ah, hyper fraîche. Ah. Il s'appelle Mamadou Sidibé, c'est lui qui incarne le premier rôle de la série Un prophète, qui était décliné du film culte Un prophète de Jacques Audiard. Faut absolument que je vous le présente.
Bon bah, à tout à l'heure alors. 9h29 sur France Inter, c'est le débat du jour.
Je fais partie des gens qui ont toujours appuyé l'idée qu'il y avait des groupes antifascistes et qui faisaient un travail d'autodéfense populaire. Quand vous êtes dans un contexte à Lyon, dans lequel depuis des années et des années, vous avez des groupuscules d'extrême droite qui sèment la terreur dans les rues, qui attaquent les personnes racisées, qui attaquent les personnes LGBT, vous savez les conséquences que ça a ?
Manuel Bompard, hier, au micro de France Inter. Depuis la mort de Quentin Nérang, cette question nous taraude tous. Groupuscule d'ultra-droite, groupuscule d'ultra-gauche, mouvement d'autodéfense, assistant parlementaire possiblement impliqué dans un passage à tabac, débat à l'Assemblée nationale qui vire à l'insulte ou à l'empoignade, réseaux sociaux complètement dérégulés. En 2026, la politique est-elle, oui ou non, bien plus violente que par le passé?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et cette question à la fois grave et brûlante, j'en discute ce matin avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Éditorialiste à l'émission Quotidien sur TMC. Et puis Jean-Yves Camus, face à vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous êtes co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Jean-Michel Apathy, je commence par vous. Je rappelle que vous avez signé récemment un livre qui s'appelle « T'es une merde, frère », signé Hanouna. Il y avait une analyse du phénomène Hanouna. Il y avait aussi une analyse, oui, de la montée en puissance, en surchauffe des réseaux sociaux, des prédicateurs télévisés, des chaînes d'infos et de tout ce mélange qui voilà, on va dire.
Ah, j'aurais pas pensé qu'on commencerait par là, mais
non.
Cyril Hanouna s'est autorisé beaucoup de violence sur un plateau de télévision, ce qui était singulier dans la société française, et il se l'est autorisé au sein d'un groupe Canal+, qui tout de même n'est pas réputé pour cela. Mais bien entendu, l'ombre de Vincent Bolloré planait. Est-ce que les réseaux sociaux, moi ça m'étonne complètement égal. Moi, dans l'analyse que j'ai envie de faire, je vais les oublier complètement.
Ah oui,
je pense qu'il
beaucoup.
Y a dans la société française d'aujourd'hui des dossiers très difficiles qui divisent la société et qui l'angoissent. Les migrations, depuis longtemps. Avec les migrations, le retour du religieux, l'islam en France, avec des dérives et des problèmes que peut poser cette religion, certains de ses adeptes la travestissant pour en faire ce que l'on en sait, et cela nourrit un intégrisme catholique religieux qui renaît beaucoup. Et puis, à l'autre bout du spectre, une redéfinition de l'anticapitalisme. Les milliardaires accaparent la richesse, les milliardaires sont en train de tuer la terre. Et donc, tous ces gens-là pensent, sur le fond de ces dossiers, que des formes de violence sont autorisées, verbales et physiques. Et le pire, c'est pour ça que la période est dangereuse. Elle n'est pas violente, elle est dangereuse. Mmh. C'est que les partis traditionnels qui encadraient les débats et les ramenaient dans le champ de la démocratie, la social-démocratie et les républicains de droite, ou la droite républicaine, ces partis-là se sont affaissés. Et il ne reste que deux partis qui font leur marché électoral, non pas sur la réunion des gens différents, mais sur l'exclusion et sur le privilège de certaines clientèles.
C'est intéressant parce que ça signifie qu'indépendamment des mouvements radicaux ultra,
oui, extrême. C'est des mouvements de fond.
Ça, c'est sûr. Des mouvements de fond et ça dépasse largement des questions de groupuscules.
Absolument.
Absolument, absolument. Jean-Yves Camus, vous voulez rebondir parce que ce qui m'intéresse, moi, de vous poser comme question face à ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, c'est qu'à une époque où ces grands partis cités par Jean-Michel Apathy étaient tout à fait debout, tout à fait repérés et tout à fait actifs, pas du tout dans une période d'effondrement ou de délitement, la violence, elle existe. Existait déjà en politique. Ah oui.
Bien sûr qu'elle existait déjà. Toute la période des années 60 est faite d'affrontements, notamment en milieu étudiant, notamment au Quartier Latin, mais aussi dans d'autres villes universitaires, avec des étudiants engagés à gauche, pour beaucoup à l'époque, à l'Union des étudiants communistes, et des groupuscules d'extrême droite qui s'appelaient Fédération des étudiants nationalistes, et puis ensuite Occident, et puis ensuite Ordre Nouveau. Toute la période mai 68, après mai 68, est faite aussi de ces affrontements-là, avec les mêmes mouvements sous d'autres noms du côté droit, et puis les trotskistes à côté d'Alain Krivine de l'autre, des mouvements maoïstes, donc tout ça n'a absolument rien de nouveau, ce qui est évidemment...
Vous trouvez qu'on a un peu la mémoire courte?
Oui, on a la mémoire courte, et puis il faut quand même rappeler que toutes ces questions de dissolution de groupuscules est actuellement régulée par l'article L212-1 du Code de la Sécurité Intérieure, qui n'est que la remise en forme dans les années 2010, d'une loi du 10 janvier 1936 sur les milices privées, qui avait été rendu un petit peu obligatoire par la prolifération, après les émeutes du 6 février 1934, de groupes qui maniaient à l'époque régulièrement le pistolet dans les réunions politiques. Hein, et c'était vrai d'ailleurs des deux bords. Donc si on regarde sur le temps très long, rien de très nouveau. Alors nous ne sommes pas dans la même configuration, et il faut insister là-dessus, de quasi-guerre civile que l'Italie des années de plomb.
Oui. Des années de plomb, c'est les années 70.
L'Italie des années de plomb, c'est les années 70-1980, avec des dossiers extrêmement complexes d'attentats faisant des dizaines de morts. Hein, celui de la gare de Bologne, par exemple, en 1980. Qu'on n'a jamais véritablement démêlé. Il y a à la fois des militants néofascistes, des gens des services secrets,
ouais.
Toute une partie de ce qu'on a appelé l'État profond, et alors là, sans complotisme aucun, hein, ça a existé.
Jean-Yves Camus, les années de plomb, c'était quand même imputé à l'extrême gauche en Italie à l'époque. Aujourd'hui, on a des doutes. Il y a eu des manipulations.
Non, ce n'est pas une question de manipulation. Les années de plomb, tous les historiens s'accordent pour dire que c'est d'une part les actions de groupes dits autonomes d'extrême gauche, dont les Brigades Rouges.
On s'éloigne un peu d'aujourd'hui. Parce que je vous écoute. Mais je me disais ça avant de rentrer en studio. Ce n'est pas parce que je vous écoute que je dis ça. Vous avez raison, ce que vous dites. Mais si on compare, on relativise. Et si on relativise,
non, pas du tout.
C'est ce que je crois, on passe à côté de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que...
Je remballe mon argument.
Comment ?
Je remballe mon argument.
Je pense que nous avons des vraies difficultés sociales, politiques, que nous traînons depuis longtemps, qui ont épuisé les forces républicaines. Aux yeux des citoyens, ces forces républicaines ne les ayant pas résolues, je ne dis pas toujours que le regard des citoyens est juste, hein, mais c'est un constat que je fais. Les partis de gouvernement se sont tous affaissés. Nous avons en plus à la malchance de ne pas avoir dans ces groupes humains que sont les partis républicains des personnalités fortes. Tout est triste, tout est faible. Et donc nous subissons une conjoncture historique où tout est aux extrêmes. L'extrême droite, quand même... C'est pour ça que moi je ne veux pas comparer, nous vivons aujourd'hui. Ce qui était l'extrême droite il y a 40 ans, c'est-à-dire à des années-lumière du pouvoir, est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Pourquoi ? Parce que la société est travaillée par des inquiétudes, des angoisses, des problèmes que l'on ne sait pas résoudre. Et face à elle, ma surprise de ce point de vue est encore plus grande que la montée de l'extrême droite. La gauche s'est toujours équilibrée sur sa part social-démocrate. Et depuis plusieurs années maintenant, celui qui arrive en tête de la gauche, c'est celui qui est réputé extrémiste. Je ne dis pas extrême-gauche,
c'est
celui qui
Mélenchon.
Est à l'extrême du spectre. Et donc tout ça, évidemment, ça donne un climat particulier.
C'est Jean-Luc Mélenchon qui sort du Parti Socialiste en disant « je suis le bruit et la fureur ».
Exactement. Et c'est cela qu'il faut essayer de comprendre. Mm-hmm. De la violence, il y en a toujours eu dans les sociétés humaines, évidemment.
Jean-Yves Camus, ça vous paraît, donc, vous, opérant de revenir à cette violence de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche ?
Je ne vais pas y revenir. On me dit que ce n'est pas opérant. Donc je fais
ah, mais si, au
opérant.
Contraire. C'est un débat.
C'est
vous pouvez défendre
essayer,
votre
c'est juste
position.
Pour essayer de comment dire,
et
de revenir à un peu de raison sur les discours que j'ai entendus ces derniers jours sur « nous sommes au bord de la guerre civile ». Nous sommes au bord de l'implosion. Mais nous sommes effectivement au bord de l'implosion pour des raisons politiques, là je suis parfaitement d'accord avec vous, qui sont le fait que par rapport au Rassemblement National, par exemple, la gauche reste depuis des dizaines d'années sur une posture morale qui est devenue inopérante quand vous êtes face à des sondages qui vous donnent 35% des voix au premier tour pour le ou la représentante du Rassemblement National, et que vous continuez à dire simplement, vous savez, c'est dangereux, il va falloir quand même essayer de faire rempart, et vous savez que ça ne marche pas. Et vous n'arrivez pas à articuler une riposte politique cohérente pour répondre aux attentes des Français, qui sont des attentes très concrètes, sur le pouvoir d'achat, sur éventuellement la réforme institutionnelle, sur les rapports de la France avec l'Union
là-dessus,
européenne.
Là-dessus, vous êtes d'accord, voilà. Manifestement
là-dessus, on est entièrement d'accord.
Mais vous ne citez pas. Oui, je vous écoute. Jean-Michel
Lapetite.
Désaccord. Vous ne citez pas l'immigration. Moi, je ne parle pas d'immigration.
Bien sûr que si.
Je parle d'émigration. Je pense que nous vivons des temps d'inquiétude qu'il faut essayer d'analyser.
Bien sûr que si.
Si la gauche échoue, c'est parce qu'elle les analyse
bien
mal.
Bien sûr que si. Je le cite. Je la cite. Et d'ailleurs, on me le reproche suffisamment. Et là aussi, la réponse ne peut pas être simplement de parler de droit qui existent et qui doivent être respectés. Il y a un certain nombre de devoirs liés au fait de devenir citoyen français, liés au fait de venir habiter sur le sol français.
On
s'éloigne pas tant que ça, parce que si vous omettez si vous omettez totalement ce pan-là de la réflexion, vous ne comprenez pas la radicalisation d'une partie
Exactement.
De l'opinion.
Ouais, je pense.
Ça d'accord. Quand Raphaël Glucksmann dit hier, je vous l'ai dit et je vous l'ai redit, la France insoumise brutalise le débat politique, brutalise le débat parlementaire, brutalise les campagnes et que ça finit par se retrouver en acte sur le terrain, Jean-Yves Camus, vous répondez quoi le
discours... Je lui réponds qu'il a visiblement manqué depuis un certain nombre d'années d'aller aux fondamentaux théoriques de la France insoumise, parce que la démocratie agonistique que nous présente Chantal Mouffe, dont parlait Ernesto Laclau, elle consiste précisément à introduire du dissensus dans une société régie par un consensus mou, qui est celui, on va dire, de l'hégémonie du libéralisme. Chantal Mouffe nous explique que c'est le moyen de surmonter les contradictions de la société. Et
donc créer des ruptures. On crée des ruptures.
Oui, mais pour faire émerger quelque chose, pas pour le plaisir de se battre, mais dans la vie réelle. Tout le monde ne lit pas de la philosophie politique. Mmh. Et ce qu'on retient, finalement, de cette posture que je préfère appeler, moi, gauche de rupture, c'est la rupture. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on a des gens qui appartiennent tous, comme nous tous ici, à la nation française, au peuple français, et qui se voient comme n'étant plus membres de la même entité politique.
Jean-Michel Lapetite, vous qui constatez la dangerosité de la situation que l'on vit sociale et politique, vous mettez de côté complètement les réseaux sociaux. Vous mettez complètement de côté aujourd'hui ces plateformes et ces vecteurs d'opinion dérégulés, on le sait, depuis plusieurs mois, et les effets que ça peut produire.
Je pense qu'elles ont peu d'importance.
Ah bon ?
On se fixe là-dessus parce que les réseaux sociaux, c'est nouveau dans nos vies.
Oui. Donc, c'est nouveau aussi dans le débat politique, c'est nouveau aussi dans l'impact de la manipulation des opinions. Tout ça, quand même, a été largement documenté.
On les utilise tous et on ne leur trouve que des défauts. Mmh. Donc, si vous voulez, ça me paraît un peu singulier. Est-ce que ça change la nature du débat politique ? Je ne crois pas.
Vous ne croyez pas ?
Je pense que quand il y a des situations de désordre, d'inquiétude, on voit naître des forces forces politiques, des groupuscules, de la violence. Vous savez, toutes les années 60, spécifiquement, puisque la France a fait mai 68, toutes les années 60, il y a des groupuscules qui se constituent, qui ont la violence en tête, et quand ils ont l'occasion de l'exprimer publiquement, ils l'expriment. Et les réseaux sociaux, ça n'existait pas à l'époque. Moi, je crois vraiment que c'est... Les réseaux sociaux, c'est une facilité du raisonnement. D'accord. C'est une manière de ne pas regarder ce qui, au fond de notre vie commune, pose problème. Et si on ne regarde pas ce qui, au fond de notre vie commune, pose problème, c'est parce qu'exactement, on ne sait pas comment le résoudre. Ou que les réponses que nous apportent les forces politiques aujourd'hui dominantes ne sont pas satisfaisantes non plus. Donc, on parle des réseaux sociaux.
Assez d'accord. Et l'un des problèmes de fond, c'est peut-être que le temps politique... n'est pas le temps de la résolution des problèmes. Je m'explique. Nous avons maintenant un mandat présidentiel à 5 ans. Ces 5 ans, il faut en retrancher la période de mise en place, et il faut en retrancher la période de campagne. Or, les Français, lorsqu'un président de la République est élu, croient qu'il est susceptible de résoudre des problèmes dans une société qui n'a jamais été aussi complexe, aussi mondialisée, où notre pays n'a jamais été aussi dépendant de phénomènes qui dépassent largement ses frontières, sont persuadés que l'homme à la baguette magique va pouvoir, en 3 ans effectifs de mandat, résoudre des questions qui se posent au pays depuis, pour certaines, y compris la réforme des retraites, depuis des dizaines d'années. Et naturellement, au bout du compte, il y a de la déception.
Moi, j'ai une réponse rationnelle pour ça. Pas la royauté, parce que ça...
C'est le mot
pas.
De la conclusion.
Le mandat de 20 ans. Voilà.
Le mandat de 20 ans, et puis voilà. Quoi encore ? Très bien.
Le retour au septennat.
Jean-Yves Camus, Jean-Michel Apathy. Ils ont commencé pas d'accord du tout. La situation explosive et dangereuse aujourd'hui, vous avez la mémoire courte, mon cher, et maintenant, ils ont terminé main dans la main. Merci à tous les deux. Ça sert absolument à ça. D'être venus sur France Inter, on écoute le rappeur Ness, le bruit et le silence. Vous voyez, c'est pas du tout le bruit et la fureur.
Si je viens, c'est que je me donne sur le track. C'est pas pour rien si y a mon place sur le tract. Regarde-moi bien, je n'ai jamais signé le pacte. Je n'ai fait que viser le top. Je n'ai fait qu'assumer mes failles. Regarde-nous bien, on n'a jamais signé le pacte. Faut mettre bien sa famille, ses amis, les amis de la famille des amis et j'en passe. Les gens viennent, les gens partent, des boulevards, des impasses. Des civils, des gendarmes, des refrains, des gens lâches. Des refrains, des couplets, des tout larges, des tout maigres. Je voulais un crew, une équipe. Je voulais palper du liquide. J'étais frêle et intuitif. Quand je pense à la grandeur du risque, quand je pense à la pression du disque, plus que dans les veines, je n'ai pas de collal. Si tu n'es pas pour de vrai, je ne fais pas de collab. Et y'a 2-3 rappeurs qu'il faudrait call out. Je vous baise, big up, shout out. Je suis dans le métro, des flashs dans le rétro. Devant, j'ai le succès ou les ulcères. Soit je me bouge, soit je moisis. C'est moi qui choisis.
C'est moi.
Je confonds le mercredi et le dimanche, le bruit et le silence, le lit et le divan. Tu m'achèteras pas avec tes pièces, des billets. Ta morale s'étend à du vide, des miettes. C'est la mienne, douce comme le miel. J'ai rempli, fait grossir l'assiette. Un peu de fame, ils veulent draguer des fillettes. Ils sont sur une ficelle. Ils méritent la civière, la gilette. Normal, je la rafale comme Clint Eastwood. C'est pour ça qu'il y a la tête de Chick qui bouge. Nous on t'aime pas trop comme un vil si louche. Nous on fonce dans le tas comme un missile douce. Il a voulu tirer cet imbécile tous. Dommage, il a trahi, on l'appréciait tous. La guerre quête de loin quand la paix s'étouffe. Si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout.
Les non-dits ont tué nos familles. Les hauts placés ont bafoué nos valeurs. Les frères ont boosté nos batteries. Nos mères ont étanché nos malheurs.
9-4 comme le 113.
9-4 comme le 113, 113 comme le BPM. Invisible sur la map, je suis une sorte de VPN. Je calcule pas trop les stats, rien à foutre du CTR. Ma voix sur la TR, donc remballe ta CTM.
Je mets de l'argent dans le physique, comme si je veux un BBM.
Si tu me croises dans la rue,
je suis toujours avec les mêmes.
Elle est poilue comme une beuge,
verte comme CTM.
Man, that shit smell good as hell.
Merci, la musique m'a donné un sens. Je rappe comme si je fredonnais un sample. J'ai toujours marché avec le même instinct. Je traîne avec des geeks ou avec des lascars. Je pose assis et icy comme l'Alaska. Souvent près de l'objectif comme un ASCAP.
J'envoie de la rime de bâtard, c'est pas du bas de gamme, c'est un motif de bagarre.
Ness, le bruit et le silence. Ness qui sera sur la scène du festival We Love Green à Paris le 6 juin prochain. Il est 9h47, vous écoutez toujours France Inter. Ah, voilà, dernière ligne droite du MAC de la grande matinale avec Charline, avec Daphné, avec une nouvelle tête qui vient de s'installer au micro. Charline, le président Macron est en visite officielle en Inde.
Oui. La France est à cran, Lyon est au bord de la guerre civile, et lui, il part jouer du sitar à l'autre bout de la planète. Oh, vous me saoulez avec vos histoires de fascistes et d'antifascistes, là, réglez ça entre vous. Hein. Ok, bah, en cas d'urgence, on peut appeler le Taj Mahal Palace et on demandera la suite Lotus Bleu. Je l'imagine au dîner officiel quand autour du curry d'agneau, les ministres indiens lui ont demandé « Alors, et chez vous en France, comment ça se passe en ce moment ?» Ça va, ça va. Et vous avez vu qu'on a pulvérisé le record de médailles aux JO d'hiver, hein ? Et vous regardez pas les JO d'hiver, vous, en Inde. Le biathlon, vous connaissez ? Donc en Inde, la visite du président se passe bien. Bah déjà, à la descente de l'avion, Brigitte lui a pas foutu une beigne. C'est déjà un bon indice, voilà. Macron a emmené une délégation. J'imagine que c'est lui qui a dit au chef d'entreprise où il devait s'asseoir dans l'avion, vu que maintenant, c'est lui qui décide qui est à l'extrême gauche. Et donc, au sein de cette délégation, ce voyage, c'est aussi pour le président l'occasion de découvrir qui est actuellement son ministre de l'économie.
Non,
c'est qui ? C'est
non,
qui ?
Et ça recommence.
J'en ai marre.
C'est,
bah,
c'est qui ? C'est qui ? Ah, bravo. Oh, merci. Ah, dites donc, grande matinale de la première radio de France. Vous me faites honte. Alors, d'après le Qatar enchaîné, Rachida Dati est aussi du voyage. Ça laisse du temps d'être ministre et candidate à Paris et mise en examen. J'imagine qu'elle est pas, elle est là-bas pour se détendre, en fait. Ça, elle va pas entreprendre de ramasser les poubelles à New Delhi. Hier, Macron a tweeté, je cite, « Inde et France, nous décidons d'élever notre partenariat stratégique au rang de partenariat stratégique global spécial et en diplomatie, cela veut dire beaucoup. » Eh ben, tant mieux, si en diplomatie, ça veut dire beaucoup, parce que moi, en français, j'ai rien compris. Voilà, tout ce que j'ai compris, c'est que pour pas finir écrabouillé entre Trump et la Chine, la France mise sur le seul dirigeant suprémaciste qui était dispo sur le marché pour une alliance. La France, qui compte 21 fois moins d'habitants que l'Inde. Mais Macron doit convaincre que la France est indispensable. Donc c'est confirmé, il a vraiment du mal avec le concept de majorité. Et alors il est parti pour vendre 114 Rafales. Oh ! Qui vont voler avec du carburant russe, puisque l'Inde achète toujours son pétrole à Moscou. Alors, on dira ce qu'on veut de Macron. Il est peut-être pas génial comme président, mais en représentant de commerce de chez Dassault, il est vraiment parfait. J'espère que cette fois, l'alliance, elle va être bien solide, parce qu'avec tous les chasseurs rafales qu'on leur vend, si on finit par se les prendre sur la gueule, eh ben on crèvera Made in France. Dans les partenariats envisagés plus chouettes, il y a le cinéma, ouais, que Bollywood vienne tourner en France, en fait. Coup de foudre à Jaipur, avec l'aimable participation du Conseil régional des Hauts-de-France. Macron veut organiser un sommet de l'IA avec l'Inde, et ça c'est fou. Plus il est bas dans les sondages, plus il mise sur les sommets pour rebondir. Et aujourd'hui, Macron se rend à l'hôpital de New Delhi pour visiter un centre de santé consacré à l'IA. Eh ben, ça c'est bien équilibré après avoir vendu une centaine d'avions de guerre, je dirais.
Eh ben voilà, Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Et il est 9h50 et nous sommes en direct donc dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête ce matin s'appelle Mamadou Sidibé. Elle est vraiment toute nouvelle, sa tête, et vous allez en entendre parler. Il a grandi entre Villejuif et Rosny-sous-Bois. Il voulait devenir footballeur, Sonia. Il était ailier, rapide, percutant. Et puis un jour, il arrête de courir après la balle. Il tape sur Google « Comment devenir acteur ?» et 3 ans plus tard, il décroche donc le premier rôle de la série Un prophète, inspiré du film culte Un prophète de Jacques Audiard. Bonjour Mamadou Sidibé, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci.
Je vous jure, quand je raconte cette histoire, personne n'y croit. Même ce matin, je racontais. C'est vrai, hein, Maria, qui réalise cette émission, elle ne me croyait pas. Donc on fait un flashback. Ouais. On est en 2022. Vous arrêtez le foot, non pas pour une blessure, non pas pour une embrouille sur le terrain, mais le moment où vous comprenez qu'en fait, le rêve professionnel que vous aviez petit, il ne se concrétisera pas comme vous voulez.
C'est ça.
C'est à peu près ça ?
C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué à ce moment-là, parce que j'avais vraiment envisagé que ça dans ma tête. Avec une discussion avec mes proches, ils m'ont juste dit, voilà, essaie de voir autre chose, essaie de...
Et vous vous souvenez du déclic ? Le jour
où vous
avez dit, c'est bon, je lâche ?
Mais j'ai jamais lâché, en fait, parce que même quand j'ai passé le casting pour Un prophète, dans ma tête, l'année prochaine, je reprenais le foot. C'était juste une année de césure.
De transition.
Ouais, c'est juste une année où je devais être sans club, quoi.
Enfin, quand même, une année de transition où vous avez réellement tapé sur Google comment devenir acteur, c'est pas une légende. Ouais. Ça vous a proposé d'ailleurs un casting sauvage. Trois ans plus tard, ce premier rôle. Moi, quand je tape comment changer de vie, ça me propose simplement de changer d'oreiller. Enfin, ça fait pas la même chose, quoi. Ça s'est passé comme ça.
Ouais, ça s'est passé comme ça. En fait, du coup, je savais pas quoi faire, donc tout simplement, j'ai tapé ça sur Google pour voir comment voir des conseils, quoi. Et j'ai regroupé plein de conseils que je voyais, et trois semaines après, j'ai reçu le casting pour Un Prophète.
C'est complètement dingue, cette histoire. Vous recevez donc cette annonce. Vous viviez à Orléans. Vous avez pris un petit ER, hop là, pour Paris, casting sauvage, donc des mois d'essai. Ça, je tiens à le dire, parce qu'un rêve, ça ne se passe pas non plus en un clin d'œil. Hein. Des mois d'essai, des semaines de préparation, vous décrochez le rôle de Malik dans Un Prophète. Hier soir, c'était l'avant-première à Paris. Vous êtes comment ce matin, quand on se voit sur grand écran pour la première fois?
Bah, je suis content, mais je m'étais vu à Venise déjà, on était parti à Venise.
Oh là là, il se la pète déjà.
Il a raison, hypé, il faut se hyper dans la vie.
Ouais, faut mettre un peu de piment là. Non, mais en fait, j'étais content. Hier, on était content là en première. Enfin, on est soulagé parce que voilà, ça faisait un moment. Et je suis très reconnaissant, je suis très fier et je suis content d'avoir participé à ce projet.
Et la série s'appelle donc Un Prophète. Elle est réalisée par Enrico Maria Artal, écrit par Abdel Raouf Dafri et Nicolas Pofailly. Je le dis parce qu'il est directement, cette série est directement inspirée de ce film culte que vous avez peut-être vu, Un Prophète de Jacques Audiard. Là, nous sommes à Marseille, un immeuble s'effondre, un seul survivant, il s'appelle Malik, un jeune homme qui va être plongé dans un système mafieux où la prison devient une école de pouvoir, bande-annonce.
Je m'appelle Malik Al-Jabna. Malgré mes difficultés...
T'as compris que t'allais aller en prison, là ?
Je crois que... Aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne.
C'est qui ?
Un mélange de loup et de renard. La pire des races.
Avec Massoud, soit t'es associé en affaires, soit t'es un obstacle.
Si !
On est en guerre. Faut choisir son camp.
Bon, inutile de vous dire, Sonia et Charline, que j'étais à fond avec Mamadou, enfin avec Malik, pendant 8 épisodes. Mais les auteurs disent que Malik, c'est pas un héros et c'est pas un repenti. Il incarne en fait la survie à tout prix. Quand vous l'avez rencontré, ce personnage, vous qui n'aviez jamais joué d'ailleurs avant, qu'est-ce qui vous a le plus troublé ?
C'est de voir à quel point il a une... Il a un instinct de survie. Justement, son instinct, il écoute beaucoup son instinct. Il est hyper intelligent et il a le sens de l'observation. Et ça m'a épaté, mais aussi parce que il y a des choses en lui que j'ai reconnues chez moi.
Par exemple.
Juste le sens de l'observation, par exemple. Et je suis beaucoup mon instinct dans la vie. Je pense que ça s'est vu du coup.
Ce qui fait qu'on est très très bon sur un terrain de foot. On sait toujours où est le ballon, où est l'adversaire, et où se placer.
C'est des choses qu'on nous apprend très très jeune en plus en école de foot. C'est des choses qui m'ont épaté. Il est très sensible aussi, il a une belle sensibilité. Et c'est un beau personnage, il est hyper complexe.
On va en parler de votre sensibilité. Sauf que, pour revenir quand même, le film Le Prophète, il est sorti en 2009. Il avait reçu le Grand Prix du jury à Cannes. Et Rahim avait remporté deux prix. Et ce qui n'existe plus, révélation et interprétation masculine. Est-ce que vous avez échangé avec Tahar? Je crois que vous n'aviez même pas vu le film quand vous avez passé l'essai.
Ouais. J'avais pas vu le film. Du coup, je l'ai regardé pendant le casting, parce que je ne le connaissais pas, le film. Et Tahar, oui, on a échangé quelques fois, très rapidement, il est très gentil, et il m'a envoyé beaucoup de soutien.
Et en avant, parce qu'en effet, Sonia le disait, vous avez passé donc des années à courir sur un terrain de foot, puis des semaines et des semaines, presque 4 mois, pour tourner cette série, dans une cellule de prison. C'est quand même pas le même corps aussi. Est-ce que vous avez dû désapprendre aussi des choses ?
Ouais, j'ai appris à utiliser mon corps pendant la préparation. Déjà avec une coach qui s'appelle Karine Nuris, on a beaucoup travaillé sur plusieurs bases de l'acting, la respiration,
beaucoup
la relaxation.
Beaucoup mangé de yaourt aussi. Hein.
Non, je n'ai pas mangé là-bas. J'ai mangé beaucoup de pâtes parce qu'on a tourné en Italie du coup. Après avec le réalisateur Enrico Maria Artali, on a travaillé sur le corps. Je crois que ça s'appelle la bioénergie. Et en fait, c'est de trouver l'énergie dans le corps, si elle est basse, haute, en avant, en arrière, pour trouver la position du personnage et comment il marche, etc.
Alors, on commence à connaître un peu le personnage, Malik, mais on connaît beaucoup moins Mamadou. Alors que dans les films qui vous ont marqué, j'ai essayé de chercher, hein, parce que ça fait partie de vos premières interviews ce matin au micro de France Inter. Il y a In the Mood for Love, il y a Le Parrain, et puis les comédies d'Eddie Murphy comme Le Professeur Folding. Ça, c'est la BO de ce film. Vous dites que si vous n'aviez pas été obsédé par le foot, vous seriez peut-être allé vers l'humour.
Ouais. C'était le premier métier que j'avais en tête quand j'étais petit.
Faire du stand-up.
Ouais, c'était être humoriste. Et, parce que, en fait, j'ai été bercé par les comédies. Eric Ramsey, Franck Dubosc, Louis de Funès, Eddie Murphy, les frères Wayans, je ne sais plus comment.
Eric Ciotti aussi, vous m'avez dit. Non.
Et du coup, voilà, c'est, les comédies, ça a toujours été là. Et j'ai toujours aimé rire, en fait. Depuis petit, j'ai toujours aimé rire. Et ouais, c'était un premier plan.
Et je vous ai demandé aussi si vous aviez un talent caché. Vous m'avez dit que vous n'en aviez pas. Mmh. Sauf que, quand j'ai proposé une carte blanche à Mamadou, il m'a parlé de poésie. Il m'a dit qu'il aimerait bien même publier un recueil de poésie. Et ce matin, vous aviez envie de partager un texte. Je vous en prie, prenez-le. Un texte que vous avez écrit en hommage à votre père.
C'est ça.
Et donc, vous avez quand même beaucoup de talent. Le studio de France Inter est à vous.
Dès mes premiers pas, je fus envahi par un manque, une absence. Tu n'étais pas à deux pas, mais je t'avais dans le sang, dès la naissance. Noyé par la haine et la souffrance, je n'ai su délivrer que de hautes vagues d'insouciance. Sur ces belles plages d'amour, au sable fin et aux hectares sans fin. Depuis bien des années, cela me semble être un mauvais rêve. Et pourtant, chaque jour, je demande à Dieu de m'accorder une trêve. Quel tourment de frustration que de penser au court temps passé à tes côtés. L'impression que ça n'est que fumée envolée, impossible à toucher. Aujourd'hui, plus que jamais, je ressens ta présence. Fait-elle office de luisance? Quoi qu'il en soit, c'est avec paix et sincérité que j'aspire à te submerger de fierté. Là-haut, dans ton nuage doré.
Bravo.
Merci beaucoup. Merci pour ce cadeau. C'est pour ça que j'adore vous présenter des nouvelles têtes chaque matin. Vous pouvez regarder cette série, Un prophète, à partir du 2 mars. Vous pouvez lire de la poésie ou encore écouter de la musique. Celle qui vous accompagne d'ailleurs souvent, c'est le piano de Ludovico Einaudi.
C'est ça.
Est-ce que vous avez une dernière dédicace ce matin au micro de France Inter?
Dédicace à mes proches, aux personnes que j'ai rencontrées grâce au cinéma et à tous les Français qui nous écoutent ce matin.
Mamadou Sidibé, au micro de France Inter, merci beaucoup.
Le chouchou de la semaine, comme dirait l'équipe. Merci Mamadou, merci Daphné.